Écoutez RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez.
Téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.
Jusqu'à minuit 30,
parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Rose.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Bonsoir, mes meilleurs voeux, bonne année.
Merci.
Une année la plus sereine possible.
Oui, on va essayer.
on
en a besoin de sérénité, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison.
Oui. Je nous la souhaite à vous, à tous. En fait, je crois que ce serait vraiment bien.
Oui, retrouver un peu de légèreté, peut-être.
Oui, ça nous ferait du bien. Alors, moi, je ne sais pas si on a un petit peu de temps avant les informations,
oui,
c'est ça?
Oui, il est 22h47-48.
Ah oui, bah alors c'est bien. Alors, en fait, voilà, je vous appelle pour réagir. Alors, je suis... Enfin, pour vous présenter un petit peu, me présenter un petit peu, je suis à un an de ma retraite.
Oui, d'accord.
Je suis soignante, infirmière, et je travaille dans la formation. Alors en plus, le témoignage hier de Rémi m'a profondément touchée.
Oh, enfin, oui, je comprends. Il dit qu'il écoute, on l'embrasse très fort. Rémi, c'était ce...
vraiment, oui, c'était l'élève infirmier qui a arrêté et qui a commencé sa formation.
Et qui a été jeté, oui,
voilà,
vraiment.
Et ça m'a bouleversée de l'entendre.
Oui.
Bouleversée. J'entendais bien. Et il y a tellement de similitudes par rapport à ce que j'ai pu vivre en tant que formatrice.
Ah, oui.
Et voir partir des élèves vraiment dans des situations très compliquées. Enfin,
C'est fou, j'y repensais après coup. D'ailleurs, je me dis, vous faites de la formation de personnel infirmier.
Alors moi, oui, je suis dans un institut de formation pour former des aides-soignants.
D'accord. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que après coup, je repensais au témoignage de Rémi qui m'a moi aussi beaucoup bouleversée.
Ouais.
Parce que ce jeune homme qui avait envie de devenir soignant, qui est dans sa première année, qui s'est porté volontaire, hein, il faut préciser, pour être sur le terrain quand au début de la pandémie, qui se retrouve dans une unité Covid, qui faisait des gestes d'aide-soignant alors qu'il était tout juste en première année, mais c'est pas tant ça, mais qui a été confronté à la mort. Il dit qu'il a et ces personnes, il dit, les a en tête, il a des visages, des prénoms, et qui aujourd'hui est totalement épuisé, très déprimé. Je me dis, comment on a pu laisser quand même des jeunes comme ça? On avait besoin de bras, mais...
Moi, en l'écoutant, je me suis dit qu'on a envoyé, alors ça va être un peu vulgaire, au casse-pipe, mais vraiment ça...
Non, mais je vous comprends.
Je mets des parenthèses, mais je l'ai senti comme ça.
Oui,
mais
moi,
j'ai éprouvé la même situation, enfin, le même sentiment en 2020, où on a une rentrée fin septembre, et trois jours après, c'est-à-dire on leur a dit bonjour, on les a envoyés en stage, c'est-à-dire une semaine de présence à l'école, beaucoup en distanciel, ils se sont trouvés en stage. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les équipes sont épuisées, fatiguées,
donc
l'encadrement, c'est pas toujours évident. Mais je suis pas là pour discréditer ce que font mes collègues, parce que franchement, c'est terrible.
C'est un constat.
Mais si vous voulez, Et c'est terriblement difficile. Moi, je vois aussi des élèves qui avaient un certain idéal en rentrant, et puis au bout de 4 mois, ils décident d'arrêter, et je peux comprendre. Alors, peut-être pas arrêter tout de suite, mais je les sens beaucoup en souffrance aussi. En difficulté, pas tous,
mais c'est ce qu'on entendait chez Rémi hier soir, parce qu'il avait, c'était un projet qui lui tenait à cœur de devenir infirmier. Et aujourd'hui, il fait une formation dans le tourisme, mais il y a quelque chose d'un gâchis, je trouve.
Exactement.
Alors vous êtes confronté à ça aussi, vous le vivez.
En fait. Je me suis fait la réflexion hier. J'ai eu une petite semaine de vacances entre Noël et Nouvel An.
Oui.
Et en une semaine, j'ai perdu le bénéfice complet de ce repos. Enfin, c'est pas vraiment un repos entre Noël et Nouvel An. Je trouve que c'est toujours une période un petit peu comme ça, un petit peu
difficile. D'accord avec vous. Les vacances les plus reposantes.
Et le 3, on a réouvert une nouvelle promotion, 65 oui. élèves. Oui. Et hier, alors c'est ce que je disais à Paul, j'ai travaillé sur le burn-out. Et en fait, oui. je suis en train de préparer un module parce que en fait, on a changé de programme, etc. Et il faut tout remanier. On fait de la réingénierie. C'est après un mot comme ça.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'il y a un nouveau programme, il faut repenser les cours, repenser les façons d'enseigner. Et moi, je suis censée travailler sur un module qui s'appelle communication. Et dans cette communication, il y a la prévention de l'anxiété, de l'agressivité, de la bientraitance et le burn-out. Alors, en fait, en travaillant sur ça, je me suis dit je coche tous les points. Enfin,
vous avez dit que vous étiez en burn-out.
Alors peut-être pas. Je me dis il y a encore un peu de marge, mais en fait, non.
Vous vous sentez épuisé.
Oui, et puis alors, je suis à un an de ma retraite et en fait, oui. je pensais pas terminer comme ça. Alors, je oui. pense qu'il y a un contexte. Hein, oui. En 2 ans, le cœur de mon métier, moi, c'était quand même, j'aime transmettre, j'aime être en face oui. à face. Et tout d'un coup, on se retrouve en distanciel derrière un écran. Mm. J'ai l'impression de passer ma vie à faire de la programmation sur, à distance. Et, et passer oui. beaucoup de temps au téléphone, passer beaucoup de temps en visio.
Ce qui est fatigant, hein, d'ailleurs, aussi.
Ah, c'est épuisant.
C'est même épuisant, alors, oui.
Voilà. L'année dernière, j'ai eu un petit problème de santé, j'étais arrêtée quelques mois, j'ai l'impression de d'avoir perdu le fil, vous savez, d'être comme ça dans d'avoir mis beaucoup de temps, d'énergie à revenir à flot en fait. Donc j'ai été opérée il y a juste un an et un jour et j'ai repris mon activité au mois de mai à mi-temps et à plein temps à partir du mois d'août et j'ai accumulé 150 heures sup, pardon, pour vous montrer. Pour vous dire à quel point c'est énorme. Enfin, je sais pas. Et là, donc en travaillant sur un questionnaire sur le burn-out que j'avais envie de mettre dans mon module, je me suis oui. dit, mais c'est pas possible. J'ai des problèmes gastriques, j'ai des douleurs partout, j'ai des problèmes de sommeil. Alors, je ne prends pas trop de café, je fume pas, je bois pas, mais voilà. Enfin, non, mais il y a des choses quand même positives, mais j'ai l'impression de déprécier ce que je fais, alors que, a priori, je suis quelqu'un qui a.
Oui,
de
vous aimez. Vous avez de la. Bah oui,
moi,
c'est
je
pas
pense.
Qu'a priori. Et vous aimez transmettre, vous aimiez.
Oui, j'aime beaucoup.
Ça, vous étiez de votre. Au départ, en tant qu'infirmière sur le terrain, vous avez évolué oui. vers cette voilà. transmission de ce métier qui vous tient à cœur.
Oui, et ça fait. Et je me suis battue pour ce poste. Hein. Ça fait depuis 2009 que je suis entrée
D'accord.
dans cette école.
Oui.
Avant, j'étais en IPSI, donc le témoignage de Rémi me parlait bien. Hein,
Qu'est-ce que c'est, IPSI ?
C'est un institut de formation pour les soins infirmiers, enfin pour
D'accord.
les infirmiers.
D'accord.
Donc j'étais dans un hôpital, rattaché à un hôpital qui avait un IPSI et oui. un IFAS, alors Institut de formation et de soignants.
Oui, d'accord.
Et puis après, à un moment donné, j'ai décidé de prendre ma retraite de la fonction publique et je suis allée travailler dans le privé, de nuit.
Oui. De nuit, tiens. C'est vous qui avez choisi ce
rythme. Ouais, parce que ça me permettait de continuer à faire de la formation continue. Voilà. J'avais toujours envie de transmettre.
Oui, mais alors vous travailliez le jour, la nuit ?
Oui, enfin, j'étais jeune. En fait, j'étais jeune et motivée, je crois. Mais là, je ne suis plus grand-chose, j'ai l'impression.
Bah, vous avez eu aussi une intervention, vous me dites, chirurgicale. Vous
oui.
avez été en arrêt. Vous êtes remise de ça ?
Pas super bien. En fait, j'ai encore des douleurs, mais bon, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que je m'écoute pas trop. En fait, je me dis, allez, il faut y aller. Il faut y aller. Bon. Quoique, je vais aller voir le médecin du travail. Mmh. Je pense qu'on va faire le point lundi. Donc, il y a quand même des petites choses. Elle voulait me revoir. Donc, je vais quand même dire que.
Bon, c'est bien.
Il y a des petites choses qui sont pas tout à fait encore au top. Mais c'est surtout ce sentiment de vacuité. Alors, c'est un terme difficile. J'ai l'impression d'être incompétente. En fait, c'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est très pénible.
Et c'est pénible, oui. Depuis quand ressentez-vous cela ?
Depuis quelques mois. Je pense
oui.
quelques mois. Donc,
oui.
Autour de moi, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a des personnes qui sont parties, qui ont démissionné, d'autres qui sont arrivées. Donc, on est dans un espèce de flou.
Oui.
Je me retrouve la dernière des Mohicans. Enfin, c'est vraiment expression
Vous sentez un peu seul, oui. Vous avez perdu des collègues que vous appréciez. Enfin,
oui, c'est ça. Oui. Et puis, en même temps, quand je vous disais le burn-out, avant, j'ai encore du plaisir. Hein, faut pas non plus tout négativer. Hein. J'ai encore du plaisir à faire des cours, à avoir des suivis pédagogiques. Enfin,
oui, mais ce sentiment d'incompétence qui est injustifié. Parce que, comme vous dites, vous êtes à un an de la retraite, vous avez été sur le terrain, vous adoriez transmettre, vous n'avez pas eu de retour négatif. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui...
Non, mais si vous voulez, par exemple, ça fait 1000 feuilles. Là depuis pas longtemps, je sais que je vais devoir, par exemple, faire les stages des élèves sur une année, alors que je n'ai jamais fait ça, et que c'est plutôt le travail d'une coordinatrice.
Et pourquoi on vous le donne à vous, alors?
Parce qu'il n'y a plus personne pour le faire, et puis parce que, a priori, à chaque fois, on me dit, tu es une ancienne, tu connais les terrains de stage, tu sauras faire, mais ça fait un travail supplémentaire énorme.
Bah exactement. Vous ne pouvez pas non plus, à vous seule, compenser le manque d'effectifs.
Non, je ne sais pas, oui. Et voilà. Et j'ai une collègue qui va être opérée dans 2 semaines. La même chose que moi, vous voyez. On est vraiment une équipe un petit peu.
Bon, mais c'est quelque chose qui est lié à la charge de travail.
Oui. Ah oui. Mais moi, c'est de l'usure. Hein. Enfin, j'ai une prothèse de genou.
C'est mécanique. D'accord. Oui, mécanique, voilà. Je comprends. Oui.
Et elle, pareil. Mais,
oui. Oui. C'est physique, hein, votre métier.
Elle a un an de plus que moi. Et en fait, moi, c'est physique, mais c'est le poids de 40 ans d'infirmière,
Mais oui. Oui, et dans un contexte quand même. Là,
très difficile.
Mais très difficile. Parce que même dans ce que vous transmettez, vous voyez et des collègues qui sont partis, et parmi les jeunes gens vous avez envie de transmettre ce que vous aimez de votre métier, vous voyez aussi des jeunes gens se décourager parce qu'il y a quelque chose de trop dur. Et ça, c'est aussi assez déprimant, dans le fond.
Oui, et puis en même temps, je veux dire, c'est pas simple. C'est un métier aide-soignant, ça s'apprend pas derrière un ordinateur. Enfin, si ça peut s'apprendre pour ce qui est théorique, alors vous voyez, on peut compenser, on peut faire plein de choses. Mais il y a tout le côté pratique qu'ils vont voir en stage, mais pas uniquement. Et ils se retrouvent noyés dans des services en souffrance. Quand moi, alors, est-ce que légitimement, je suis en droit de vous dire que je vais pas très bien? Je pense que oui, mais je me dis, il y a d'autres personnes qui souffrent d'autant plus, enfin encore plus que moi.
Certes,
mais il y a pas une gradation, hein. Mais
non, mais en tout cas, c'est vous. Il y a aussi tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui a changé dans la pratique. Il y a aussi le mal-être de ces jeunes gens que vous formez, que vous prenez en pleine figure, et qui contribue aussi au fait que vous n'alliez pas très bien, vous. Ce qui est compréhensible. On va continuer à se parler, ma chère Rose. On aura peut-être des réactions, d'ailleurs, de soignants, élèves, infirmiers, aides-soignants, des collègues, 09 69 39 10 11. Restez bien avec nous sur RTL.
22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir sur RTL. De 22h à minuit et demi, l'antenne est à vous. Vous avez besoin de me parler, de me dire ce que vous avez sur le cœur, de me confier vos états d'âme. Je suis là pour vous, vous avez toute mon attention et tous vos appels sont les bienvenus. Au standard 09 69 39 10 11 et nous avons besoin de vous aussi et de vos réactions pour nourrir, enrichir nos échanges à l'antenne. Alors peut-être que vous avez entendu Rose juste avant les infos de 23h. Rose qui est infirmière à un an de la retraite, qui fait de la formation et qui depuis quelque temps a un sentiment un peu d'épuisement. Vous pouvez réagir si vous êtes soignant, aide-soignant, infirmier, peut-être auxiliaire de vie, vous travaillez à l'hôpital, en clinique, dans des EHPAD ou étudiant infirmier, étudiant aide-soignant. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit SMS au 64 900. Vous commencez votre message en tapant les trois lettres RTL, coût de l'envoi 35 centimes par SMS. Et Paul se fera aussi l'écho des commentaires que vous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Merci d'avoir patienté, Rose, pendant les infos.
Je vous en prie.
Alors, vous m'avez dit, avant les infos, vous parlez de cette formation que vous êtes en train de faire, et justement, dans la prévention de l'anxiété, de l'agressivité, il y a un module sur le burn-out, et vous vous êtes dit, mais, au fond, je coche un peu toutes les cases. Et pourtant, vous m'avez dit, est-ce que j'ai le droit de dire que je ne suis pas très bien en ce moment ?
Oui, alors c'est fou, c'est vraiment un sentiment de... Je me posais la question de la légitimité de dire « bah ça va pas ». Parce que là, en ce moment, je me dis « il faut s'accrocher, c'est encore... » Je suis dans la dernière ligne droite, hein, et en même temps, ça me semble tellement long, cette ligne droite, et tellement... Je me sens tellement épuisée moralement, physiquement.
C'est ça,
oui. Je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Rémi hier.
Oui.
Il disait, quand il rentrait, il dépressif, il avait des idées suicidaires avec le tram.
Oui.
Alors moi je pense pas au tram, hein, mais je me disais, parce que je fais quand même un peu attention à moi, je vais au travail à pied, enfin voilà, pour essayer d'oxygéner un petit peu. Et je me dis, je pourrais peut-être glisser sur une plaque de verglas, comme ça serait un accident de travail où on pourrait pas me reprocher de m'arrêter. Donc je me dis mais là ça va pas, t'es complètement folle. Traînes déjà des douleurs importantes, c'est pas la peine d'en rajouter. Ça veut pas dire que consciemment j'y pense. Enfin
non, je comprends bien, mais le fait d'avoir cette pensée, de dire comme s'il y avait une justification à un arrêt. On voit bien aussi la difficulté qui est vraiment très particulière chez les soignants. Les soignants sont souvent ont du mal à reconnaître un mal-être d'ordre psychique.
Oui.
Comme s'ils allaient au bout de leurs limites. C'est-à-dire que, comme si, vous glissez sur une plaque de verglas, là, vous tombez, c'est mécanique, vous êtes en arrêt, vous vous cassez une jambe. Alors que vous dites que vous vous sentez très fatigué actuellement, et physiquement avec des douleurs, mais aussi moralement avec quelque chose d'un douloureux à vivre dans votre travail actuellement, encore une fois. Ça ne veut pas dire que ça va durer.
Oui,
parce que ce sentiment, sentiment d'incompétence. Qui est irrationnel. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui traduit là, en fait, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, si ce n'est que vous devez certainement beaucoup prendre sur vous actuellement aussi.
Alors après, il y a des choses qui me rassurent. J'ai des témoignages de mes anciens élèves qui me disent on est en période de vœux, j'ai encore des personnes que j'ai suivies depuis des années qui me disent on vous oublie pas, bonne année. Enfin, je me dis, j'ai dû marquer quelque part, j'ai semé des petits cailloux, enfin, j'espère.
Oui, bien sûr, vous avez des retours comme ça, bien sûr.
J'ai une réelle bienveillance vis-à-vis des autres. Est-ce que je me l'applique à moi, peut-être un peu moins.
Mais c'est beaucoup le problème des soignants, Rose.
Vous parliez
malheureusement avec Rémi, que j'embrasse d'ailleurs s'il est à l'écoute, parce qu'il me dit qu'il écoute l'émission le soir, qui nous parlait, parfois des idées qu'il assaillait comme ça, la dernière fois, le tram arrivait, l'envie de se jeter dessous. Vous savez, le suicide, chez les médecins, on en parle peu, mais ça existe. Et souvent, justement, ils ne consultent pas. Et il y a beaucoup d'épuisement derrière. Et il y a un épuisement des soignants. L'hôpital va mal, et depuis bien avant la pandémie, et la pandémie met en avant le fait que l'hôpital va mal, qu'on a supprimé des lits, c'est pas à vous que je vais l'apprendre.
Le management, c'est un petit peu bulldozer.
Complètement.
Je vous assure, alors c'est un terme qui est fort, mais je vous assure, le sentiment d'être un pion... et qu'on va déplacer au gré des
parce que ce sont des gestionnaires qui gèrent l'hôpital, enfin ils n'ont aucune vision de la santé, ils gèrent comme des gestionnaires. Mais l'hôpital, c'est un bien public.
Je voudrais juste vous dire quelque chose qui... Alors, principalement, je j'habite pas très loin de mon lieu de travail, donc je peux y aller à pied, et ça me fait du bien d'aller à pied, j'ai 20 minutes de marche, etc. Mais le jour de la rentrée, j'avais besoin de prendre ma voiture parce que j'avais un rendez-vous après. Et le directeur est passé et il a fait une remarque, et pas que à moi, à tout le monde. Et je me suis vue hurler dans ma voiture en me disant c'est pas possible, on est complètement nié dans ce qui fait quand même la richesse de notre métier en fait. Alors après c'est sans doute des points de détail, mais à un moment donné vous savez c'est comme si c'était trop.
Oui non c'est une accumulation.
Je vous donne un exemple. L'exemple qui m'a fait hurler dans ma voiture c'est nous dire. Je comprends que vous ayez des heures supplémentaires parce que vous êtes toujours en train de fermer les portes derrière vous. On a été cambriolé deux fois là où je suis, donc.
Mais quel rapport ? Je comprends pas en plus.
Eh ben parce que quand on a fermé notre salle de cours, on la ferme à clé et que lui ça la supporte parce que enfin je dis que des bêtises. On ferme nos bureaux à clé parce que on veut pas non plus. Enfin on a nos des affaires etc. Et avec tout le temps que vous perdez à ouvrir et à fermer les portes à clé,
oh là là. Je comprends. Oui, et désobligeant.
Vous voyez, c'est alors,
oui, comme
dire,
si les heures supplémentaires, c'était le temps que vous passez à ouvrir et fermer des portes. C'est très désobligeant pour votre travail.
Je pourrais faire canard laqué et me dire c'est rien du tout, mais être capable de dire ça alors que c'est quelqu'un qui est aussi soignant, hein, je veux dire, à la base, lui, il est soignant, il a été un jour dans sa vie infirmier, etc. Maintenant, c'est un gestionnaire. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, si vous voulez, quand je dis... je me déprécie par rapport à mon travail. Je pense que j'ai... Alors, le terme, vous savez, conscience professionnelle. Je crois que j'en ai encore une bonne dose de conscience professionnelle et de conscience professionnelle aussi pour par rapport à mes collègues aussi. Et je ne suis pas sûre que tout le monde se l'applique tout le temps. Et quand je vous dis il est impossible que je m'arrête, il faudrait vraiment quelque chose... L'année dernière, je me suis arrêtée parce que j'avais une opération, une rééducation, et je suis retournée à mon avis trop tôt au travail. Enfin, je pense.
Oui, c'est possible.
Parce que possible. J'ai eu deux mois et j'ai pas joué les. Oh non, je vais en prendre encore un tout petit peu parce que je me disais il faut rentrer et ça a été tellement difficile de revenir, tellement difficile de voir que tout avait changé. On a mutualisé plusieurs écoles ensemble, on a uniformisé et c'est terrible, terrible, terrible.
Et puis on accroît votre charge de travail
voilà,
aussi,
c'est
au prétexte
ça,
de votre ancienneté que donc vous pouvez faire face.
Alors après, il n'y a pas que moi. Enfin,
vous voyez qu'on vous pense compétente, puisque vous pouvez même remplacer les collègues partis.
Et un autre exemple, alors vous allez me dire, c'est peut-être un point de détail, mais avant Noël, on a une réunion de travail et on nous a dit, on est là, je suis là pour vous entendre, vous écouter, qu'est-ce que vous avez besoin, etc. Donc comme on a accumulé des heures sup à gogo, on nous a dit, vous les payez, vous savez. Et moi, j'ai dit, j'ai besoin de temps, mais j'ai besoin plus de temps que d'argent. Enfin, alors vous allez me dire, on a toujours besoin d'argent, mais là, franchement. Et j'ai cédé, j'ai dit, ok, je veux bien qu'on me paye un certain nombre d'heures, mais pas toutes. De toute façon, ils vont déjà s'accumuler. Et à la fin de cette réunion, on me dit, mais vous avez vu on vous a augmenté? J'ai dit, non. Enfin, je pensais que c'était le Ségur de la santé. On a eu une petite augmentation. Mais, non, mais pour valoriser votre pédagogie, je vous ai passé infirmière chef. Et je me suis dit, mais ça fait trois mois que ça s'est fait en catimini. Rien, vous voyez, c'est comme si.
Mais vous avez du coup, en étant infirmière chef, une.
Une bonification. Enfin, c'est pas non plus. Attention, hein.
Oui,
j'ai changé de coefficient, mais c'est vrai que sur ma fiche de salaire, et en fait, ça s'est fait comme ça. Puis après, je me suis dit, mais attends. Est-ce que c'est parce que... c'est la façon de faire.
Oui, mais
peu importe. C'est pour valoriser mon expérience.
Vous ne vous sentez pas... Il y a aussi quelque part avec ce directeur, la façon dont il agit dans son management, comme on dit maintenant, un certain manque de considération. Et qui n'a pas lieu certainement pas qu'à vous, mais c'est peut-être lié à sa personnalité. Et tout ça, ça s'accumule. Moi, ce que j'entends, Rose, c'est que faut pas attendre de glisser sur une plaque de verglas. Enfin, oui, non, mais à un moment, c'est pas. Qu'est-ce que vous avez encore à prouver? C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un peu de recul, puisque vous disiez que cette semaine, même de congé entre Noël et le jour de l'an, bon, vous avez fait du bien, mais c'était pas assez long. Vous avez peut-être repris trop tôt après votre intervention. Bon, il y a une fatigue et physique et psychique qui s'est accumulée. Il vaut parfois mieux s'arrêter un temps plutôt que de prendre sur soi, et quand ça lâche vraiment. Et là, du coup, l'arrêt, il en est d'autant plus long. Mais le problème, c'est que il y a cette question, parce que justement vous avez cette conscience professionnelle, il y a la question de la légitimité, comme si au fond c'est le problème de beaucoup de soignants. Il y en a d'autres qui souffrent beaucoup plus que moi. Oui, d'accord, il y a les autres, mais en fait il y a vous où finalement vous commencez à vous sentir en difficulté dans dans votre métier même, qui est de transmettre. Et de transmettre, finalement, quelque chose, ce travail que vous avez aimé, que vous aimez encore, mais que là, il y a des choses qui ne passent pas. Donc, finalement, à un moment, il vaut mieux prendre du recul plutôt que ça tourne à l'amertume, un peu à la déprime. Enfin, vous voyez, il faut aussi savoir lever le pied.
Alors... Je n'ai pas le sentiment d'être en dépression.
Mais un peu en déprime quand même. Hein. Non, j'ai pas dit sévère, mais
non,
un peu en
je pense que ouais, voilà, je suis en déprime. Et c'est surtout de me dire, de toute façon,
ça arrive au meilleur, hein, vous savez. Oui, les soignants sont pas à l'abri. Hein.
Ah non, mais pas du tout. J'ai bien conscience que je suis fragile. Enfin, je suis fragilisée. Ouais. Je me sens fragile.
On va. Je faisais un petit peu un appel suite à votre témoignage là avant les infos. Il y a Marie-Stéphane qui va nous rejoindre. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Bonsoir, Marie-Stéphane.
Bonsoir.
Alors, vous avez écouté attentivement le témoignage de Rose. Vous êtes infirmière également ?
Alors, je suis infirmière de formation et j'ai exercé pendant plus de 20 ans et je suis actuellement, depuis 20 ans, directrice d'EHPAD.
D'accord.
Et je vis au milieu des soignants puisque les EHPAD aujourd'hui, c'est un monde médico-social mais avec une grande dépendance et des soins au quotidien. Et depuis notre crise actuelle, eh bien, on a une fuite des soignants. Beaucoup de personnel en interrogation sur ce qu'ils font, en souffrance, parce que ils n'ont pas l'impression d'être compris par le système actuel. On leur demande trop de choses. Et moi, je pense, parce que j'ai 61 ans, je ne suis pas très loin de la retraite non plus.
Ce n'est pas nouveau en même temps, si je peux me permettre.
Oui, non, mais la responsabilité sur les épaules est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans.
Ah bon ?
Nous ne vivions pas notre profession d'infirmière comme ils la vivent aujourd'hui, eux.
Qu'est-ce qui a changé ?
La pression du bien faire, je vais dire entre guillemets, tout le temps, sans faille, avec des injonctions paradoxales par nos instances supérieures que sont l'ARS et le ministère de la Santé, notamment dans la période actuelle, avec des familles exigeantes où on ne passe rien. Et où, quand on dit à un soignant, vous perfusez telle personne parce qu'en fait, vous ne voulez pas les faire boire, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour le soignant. Ou pour l'aide-soignante.
C'est-à-dire qu'on vous dit de perfuser parce que quoi, ça prend
trop... Non, les familles le vivent comme tel. C'est-à-dire que les familles disent, si vous perfusez, c'est que vous ne donnez pas à boire.
Oui.
Moi, ça m'a profondément choquée quand j'ai entendu...
Oui, comme si on assimilait à de la maltraitance.
C'est ça.
Finalement.
C'est ça.
Et là les où soignants, les personnes âgées peuvent se déshydrater très vite et que parfois,
bien sûr,
il est important de les réhydrater par perfusion.
Bien sûr. Ouais. Et ça, les soignants, je pense qu'ils ont ce regard beaucoup plus prégnant que ce que nous, on avait dans le passé. En fait, on faisait notre travail à l'hôpital sur notre journée. S'il fallait rester, on le faisait, sans se poser la question de... mais tout ça dans un sentiment relativement serein. Aujourd'hui, c'est impossible. Quand déjà vous démarrez votre journée avec deux collègues en moins...
Vous avez beaucoup de, vous dites, beaucoup d'absences, là, des personnes, du personnel qui a quitté
Ou qui ne viennent pas, qui se mettent en arrêt deux, trois jours et qui reprennent et qui s'en vont.
Oui, je vois sur votre petite fiche que vous dites, vous percevez au quotidien la fatigue et la tristesse aussi des infirmières.
Oui.
La tristesse.
Et des aides-soignants.
Ah oui.
Ouais.
Et cette tristesse, alors, elle vient d'où ? Qu'est-ce que c'est ?
Un sentiment d'insatisfaction sur ce qu'ils font. D'accord. On n'a pas le temps.
D'accord, oui.
On pourrait faire mieux, mais comment faire pour pallier à tout le monde ?
C'est là où c'est compliqué, Rose. Vous parliez dans votre nodule de la bien-traitance, et en même temps, on voit que face au manque d'effectifs, où beaucoup de soignants souffrent d'en devenir maltraitants, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas assez de temps à accorder, notamment aux personnes âgées dans les établissements.
Mais le burn-out, c'est quand même... on est brûlé de l'intérieur. Enfin, je veux dire, on a un certain idéal et on voit bien qu'on court après le temps et on ne fait pas son travail de façon... sereine. Enfin, et surtout, d'être toujours sur la ligne de crête, sans aucune possibilité. Moi, je vois ça comme ça aussi. Des moments où on peut se poser. Alors, je crois que dans le témoignage que nous dit Marie-Stéphane, c'est ça ?
Oui.
Je pense qu'elle est vraiment au cœur de... Enfin, une problématique qui est différente de la mienne, ça c'est sûr. Mais je pense que la difficulté de recruter du personnel aussi, compétent ou pas compétent.
Mais en même temps, comment on peut donner envie aux élèves qui arrivent
On peut les entourer
correctement quand il nous en manque moins d'eux le matin. Ben,
vous mettez le doigt sur la question et moi je trouve, Rose, c'est ça actuellement qui fait vous sentir un peu en souffrance. C'est comment donner l'envie à des jeunes qui arrivent, qui veulent démarrer dans le métier, si vous-même actuellement vous êtes dans un état où vous vous sentez, je reprends vos mots, cramé de l'intérieur. Donc à un moment il faut lever le pied et vous êtes légitime à le faire. Parce qu'on ne peut transmettre, on ne peut donner que ce que l'on a. Hein. Vous voyez, au bout d'un moment, sinon on s'épuise, on finit exsangue. Et on peut se ressourcer. Parfois, justement, plus on est attentif à ces signaux-là, plus on sait lever le pied, trouver ce qui va vous permettre à vous de vous ressourcer, ce qui ne sera pas la même chose que pour une autre personne. Vous pourrez reprendre et à nouveau avoir de l'envie, de quelque chose à transmettre. Mais à un moment, quand on se sent vidé de l'intérieur, ben on ne peut pas transmettre grand-chose. Hein, voyez ?
Mais oui, ouais. Je juste un petit point pour conclure. Je vais dire que moi, je me suis demandé si j'allais pas démissionner pour aller faire des prélèvements sanguins dans un laboratoire.
Oui, justement, il vaut mieux vous arrêter à un an de la retraite, prendre un petit peu de repos, que voyez, là, ça serait complètement aberrant. Parce que même, vous savez, faire des prélèvements sanguins en ce moment, toute la journée, ça ne va pas être très rigolo non plus. Donc, levez le pied, arrêtez-vous un petit peu, reprenez des forces, requinquez-vous, et vous verrez les choses autrement. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai été 42 ans infirmier psy. Par chance, je n'ai jamais été en burn-out. Il faut savoir garder ses distances tout en restant sensible aux patients. Et surtout, s'arrêter sans culpabiliser. Courage, dit cette personne. Je suis sûre que vous avez beaucoup donné dans votre métier et que vous avez certainement encore des choses à transmettre, mais à un moment, c'est de vous dont il faut prendre soin. Il y a Evelyne aussi de Lisieux, elle dit « Je comprends Rose pour sa conscience professionnelle ». Evelyne dit « Moi, j'ai fait ma troisième dose pendant les vacances pour éviter un arrêt de travail éventuel. Mais un an de ma retraite, à vous écouter, je me dis qu'il faut vraiment que je pense à moi. » Et Evelyne ajoute « Vous savez, en usine, mon collègue, après 45 ans de service, a pris sa retraite. Même pas un mot de reconnaissance par notre direction. » C'est terrible ça. C'est terrible de voir quelqu'un qui a travaillé pendant 45 ans dans une usine et qui part sans qu'on lui organise un pot de départ, quelque chose. Bon, alors avec les masques, c'est compliqué, évidemment, les pots de départ en ce moment, mais symboliquement, enfin, un petit mot, une petite, voyez, une petite fête. Alors oui, c'est évidemment, mais au moins quand même faire part de la gratitude, de la reconnaissance pour le travail qui a été accompli. Est-ce qu'il y a des réactions, Paul, un petit peu de soignants ou non soignants, parce que ça nous concerne tous finalement sur ce que vit Rose et Marie-Stéphane.
Alors il y a David qui dit à un an de la retraite, bah oui, préservez-vous. Déjà, le passage de l'activité pro à la retraite, c'est pas simple. On sent que vous êtes consciencieuse, très réactive. Je suis sûr que vous êtes trop dur avec vous-même, dit David. Pareil, hein, Caroline dit, reposez-vous, autorisez-vous à vous reposer. Personne ne vous le proposera. Hein. Et il y a Pitoun aussi qui écrit ce message, tous ces témoignages de soignants qui se refusent le droit d'être malade. Toujours ce sacro-saint devoir, on pense aux patients, résidents, aux collègues. On s'oublie pour le bien-être des autres. L'impression de pion, elle est exacte, mais c'est très dur de lâcher prise. On nous fait l'affront de mettre des remplaçants qui n'y connaissent rien. Mais sur le planning, le nombre de personnel est bon. Les soignants sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge pour sauver leur peau. Ouais. Et puis, il y a ce témoignage aussi de Natalia qui fait écho. Voilà, ça fait écho chez Natalia. Elle dit, ce que nous vivons comme jeunes enseignants en faculté de droit, c'est un peu pareil. Le service public manque de moyens, nous avons aussi plus de pression d'année en année. Nous sommes beaucoup à finir l'année en souffrance avec une incompréhension totale de l'institution qui nous confie les tâches du personnel administratif manquant. Et Natalia, elle vous embrasse.
Un petit message de Michel qui dit, allez, que Rose ferme les yeux, il est 20h. Nous vous applaudissons tous, un grand merci. Eh oui, mais il est loin, maintenant on n'applaudit plus.
Oui,
on n'applaudit plus les soignants, c'est très loin. Et les soignants s'en font à nouveau agresser, malheureusement, c'est reparti. On pense à vous, vraiment, quoi vous dire, que vous avez tout notre soutien, toute notre reconnaissance, mais qu'il faut aussi prendre soin des soignants et prendre soin de vous, ma chère Rose. Et bon courage à vous, Marie-Stéphane, avec tous ces problèmes-là que vous rencontrez aussi. Merci à vous deux. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Au revoir, Rose.
Au revoir.
Jusqu'à 12h30,
Caroline Dublanche sur RTL.